bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VO Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, dont les troupes soutiennent l'armée congolaise face au M23 et son allié rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo, a évoqué des affrontements datant du XVIIIe siècle entre les royaumes rivaux du Burundi et du Rwanda. L'évêque de Muyinga, Bonaventure Naimana, ex-président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, a mis en garde contre la montée des tensions ethniques dans la région. Le Burundi a été le théâtre de massacres interethniques en 1965, 1972 et 1981 et a connu une guerre civile entre 1993 et 2006 ayant fait 300 000 morts, tandis que le Rwanda a vécu le traumatisme du génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 morts, dont au moins 500 000 Tutsis en moins de 100 jours. Alors comment prévenir les tensions et violences à caractère ethnique? Quelles initiatives entreprendre pour éviter la division communautaire et promouvoir la culture du pardon et de la réconciliation? Ce sont les questions que nous allons nous poser, notamment avec notre invitée en direct à Kampala, Sandrine Lusamba, coordonnatrice de l'ONG congolaise Sofepadi. Sandrine, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir, merci Nathalie.
Alors, pour citer ce qu'a dit cet évêque burundais, il a dit très exactement, je le cite, « Nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que cette guerre est en train de réveiller la blessure des divisions ethniques que nous sommes en train d'essayer de guérir par la promotion du pardon et de la réconciliation dans le pays. » Donc, c'est Bonaventure Naimana qui l'a déclaré. Et l'on sait que le 28 janvier dernier, une responsable de la mission de la MONUSCO a mis en garde notamment contre les risques d'attaques sur des bases ethniques dans l'est de la RDC, ravagée donc par des combats. Elle avait dit, je la cite, des attaques sur des bases ethniques dans une région avec une histoire très sensible doivent être prises très au sérieux. Donc c'était Viviane Van de Perre lors d'une intervention par vidéo depuis Goma devant le Conseil de sécurité. Et elle avait noté que le Bureau des droits de l'homme, notamment le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, avait documenté au moins un cas de lynchage basé sur l'appartenance ethnique dans un site de déplacés à Goma. Pour commencer, Sandrine, on va écouter la réflexion de la juriste tchadienne Thérèse Mekombe.
Je pense que ces conflits, ces violences à caractère ethnique sont le plus souvent l'effet des politiques. Les ethnies ou bien les communautés vivent toujours en harmonie. Mais le plus souvent, des politiques, à travers l'intervention quelquefois négative des administrations, amènent ces ethnies-là à se faire la guerre entre elles et également entraînent des tensions, créent des tensions dans ces communautés. Oui, je pense que cela est dû également à une mauvaise gouvernance, parce que quand on gère un pays, on doit le gérer dans la transparence, on doit le gérer en considérant tout ce qui habite sur ce territoire-là sur le même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de discrimination dans la gestion, dans la répartition également des ressources. Et cela, le plus souvent dans certains de nos pays, c'est surtout la répartition des ressources via la gestion des ressources qui pose des problèmes au niveau des communautés et qui entraîne les violences dont on parle. Et donc moi, je pense que pour mettre terme à ce genre de conflits intercommunautaires et interethniques, je pense qu'il faut une bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et une bonne gestion également des ressources en termes de population, en termes d'accès ou bien de réponse à leurs besoins fondamentaux.
Voilà, donc c'était la juriste tchadienne Thérèse Mekombe. Sandrine Lusamba, vous avez entendu ce qu'elle a dit, hein, elle a évoqué plusieurs facteurs, plusieurs angles, et vous-même, vous m'aviez dit que l'histoire nous a montré que la manipulation ethnique est un outil politique. Donc ce premier point-là, qu'est-ce que vous suggérez? Parce que, bon, plusieurs le disent, des observateurs, que effectivement, on utilise un petit peu les ethnies par manipulation politique.
Merci beaucoup Nathalie, c'est un honneur de partager sur ces sujets avec vous. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la manipulation politique est vraiment souvent un outil qui attise ou qui augmente ces problèmes au niveau des ethnies. Alors pour prévenir ces tensions, il est vraiment essentiel de promouvoir l'éducation à la paix dès les plus jeunes âges, mais aussi de voir et de bien comprendre le rôle que les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont dans ces communautés, sont des femmes qui passent le temps dans ces communautés, elles doivent comprendre leur rôle, dans l'éducation à la paix et dans la recherche de la paix. Mais aussi, il faut faire l'effort de bannir tous les discours de haine, mais aussi d'encourager un leadership responsable. Et un grand élément qui peut aussi aider à prévenir cela, c'est de travailler à travers le réseau. Les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont vraiment des canaux très efficaces de communication, mais aussi des médias traditionnels qui doivent être formés à identifier des messages de haine, à ne pas les promouvoir, et qui doivent être formés à partager des messages qui n'alimente pas ou qui n'attise pas de conflits au niveau de communautés.
Mmh. Est-ce que on a encore aujourd'hui des cas de médias qui ont tendance finalement à utiliser là ce caractère ethnique dans leur couverture?
Bien sûr, bien sûr. Nous, je suis de la RDC, bien sûr, on peut le remarquer. Pendant les élections, c'était facile de voir que tel média a telle appointance politique, tel autre a telle position politique, soit par rapport à la tribu ou à l'appartenance tribale de tel ou tel autre politicien. En tout cas, cela existe encore de nos jours.
Mmh. Alors, on va écouter l'architecte et militante des droits humains, Caroline Pindi. Elle est à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Pour ma part, je pense qu'il faut déjà changer de narratif. C'est-à-dire que la génération actuelle doit prendre le temps de baliser le chemin, c'est-à-dire de parler aux enfants en bien des autres ethnies. C'est très important parce qu'il faut réparer cette erreur-là. Il faut réparer cette erreur, sinon elle va continuer. Et on a déjà vu en fait les conséquences lamentables que ça pouvait engendrer. Donc il faut changer de narratif, il faut valoriser toutes les ethnies, il faut arriver à aplanir les choses pour que la situation puisse enfin devenir vivable. Sinon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et moi, je pense qu'il faut cultiver l'amour. Hein. Les gens ne s'aiment pas. Lorsqu'on aime son pays, on est censé aimer aussi les autres ethnies. On est censé comprendre que toutes les ethnies sont chez elles et qu'il faut travailler ensemble pour justement l'émergence de ce pays-là.
C'était Caroline Pindi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sandrine Lusamba, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Parler en bien de l'autre. Et elle dit cela au sein de la famille. Il est vrai que l'on a tous tendance, c'est un petit peu un sport familial, on va dire, de dire beaucoup de mal des autres, finalement. Et en fait, on pense pas faire le contraire. On devrait faire le contraire, effectivement, dire du bien de l'autre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation. Mais qu'en est-il de l'éducation familiale, justement, sur ces questions?
Évidemment, l'éducation familiale, elle est très importante pour éviter, comme Caroline l'a dit, de parler de mal aux autres. Vous voyez, avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, des jeunes enfants peuvent s'élever aujourd'hui pour dire « je hais telle tribu » parce qu'ils ont entendu que les adultes autour d'eux parlent en mal de telle ou telle autre tribu. Et il est important de bien parler, d'expliquer des situations, des communautés qui nous entourent ou des communautés qui se mélangent pour que les jeunes générations les comprennent et qu'ils ne puissent pas développer cette haine. Aujourd'hui, il y a de mariages intercommunautaires. Ça doit avancer et que la communauté doit savoir que le vivre ensemble devra dépasser tout le problème qui peuvent être attissés par le politique.
Alors, on reste en République démocratique du Congo, toujours à Kinshasa, pour écouter la militante des droits humains, Espérance Kilembe.
Chez nous, en RDC, il est difficile de promouvoir la culture du pardon et de la réconciliation. La preuve en est que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a entrepris des démarches pour les dialogues afin d'aboutir à la réconciliation et à la paix. Malheureusement, il est accusé de tous les maux. Pour bannir les tensions ethniques en Afrique, il est nécessaire que le gouvernement parvienne à faire la distinction entre ses intérêts personnels et les caisses de l'État et qu'il cherche avant tout à garantir le bien-être des citoyens, comme ça se passe en Europe, en Amérique, en Asie.
C'était Espérance Kilembe, elle est à Kinshasa et elle est présidente d'une ONG pour les personnes âgées. Sandrine Lusamba, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG congolais Sauf et Padi, qui est dirigée par Julienne Lusenge. Vous êtes basée à Bounia, Beni, donc en Ituri. On sait que dans cette région, dans cette province, il y a pas mal de conflits communautaires à caractère ethnique et autres. Le conflit Emma-Lendou, etc. Et vous-même, vous avez... Déjà, pourriez-vous nous expliquer pourquoi finalement on a autant de conflits communautaires dans cette région, en particulier l'est de la RDC, la région des Grands Lacs, hein, l'est de la RDC?
Merci beaucoup Nathalie. Alors, chaque coin de la République démocratique du Congo a son histoire propre par rapport au conflit. Vous avez cité l'Ituri qui a son histoire propre entre deux communautés majoritaires. Vous avez cité du côté de Nord Kivu, les Kasaï, que ce soit même l'ouest de la RDC, il y a les conflits Tekeyaka. En ce moment, il y a les conflits au niveau des Kisangani qui opposent deux tribus aussi, des communautés majoritaires. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quelles que soient les liaisons ou le, comment dire, ce qui est autour de ces conflits, ces communautés peuvent toujours continuer à vivre ensemble. Ils peuvent toujours continuer à vivre ensemble. Parce que ça a commencé il y a plusieurs années. Il y a eu de sang qui a coulé. Il y a eu des réflexions. Il y a eu des enquêtes. Pourquoi n'est pas maintenant, en ce moment, se dire il est moment de réfléchir ou de renforcer les initiatives qui promeuvent une réconciliation, des initiatives de justice transitionnelle, des initiatives de dialogue communautaire pour que ces communautés continuent à vivre ensemble.
Alors, c'est ce qu'on va voir avec vous, hein, parce que vous avez donc réalisé ce genre d'initiatives qui ont très bien marché. Et effectivement, on le dit toujours, ces communautés vivent très bien ensemble, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut éclater et devenir extrêmement violent. Donc, en fait, l'objectif, effectivement, c'est d'éviter cela dans l'avenir, quoi qu'il arrive. On écoute à présent une Béninoise, c'est Yvette Alavaux. Elle est spécialiste en communication sociale.
Sur cette thématique, je pense qu'il est vraiment important de resituer un tout petit peu les responsabilités. Déjà, en resituant les responsabilités, cela va nous amener à mieux comprendre l'histoire de ces deux peuples-là et l'origine justement de ce conflit-là. Une fois que cela est fait, je pense qu'il va falloir passer à l'étape suivante de déconstruire les stéréotypes, éduquer les jeunes générations à pouvoir mieux vivre ensemble. Il faudrait mettre en place des stratégies, un système qui favorise le vivre ensemble, l'acceptation de soi, savoir travailler malgré nos différences et valoriser chaque ethnie. Quant à ce qui se passe dans nous, notre pays, le Bénin, je sais que les clivages ethniques, il y en a toujours, mais cela n'a pas atteint ce paroxysme. Nous avons quand même notre façon à nous d'être tolérants vis-à-vis de l'autre ethnie. Et le gouvernement en place a tout fait pour favoriser justement dans la fonction publique et dans certaines structures étatiques, ils ont vraiment favorisé le vivre ensemble en mettant ensemble différentes ethnies. Il faut favoriser cela.
C'était Yvette Alavaux, béninoise, militante des droits humains. Sandrine Loussamba, donc vous-même, au sein de votre association, vous réalisez des miracles, on peut le dire, depuis de nombreuses années. Vous avez notamment une histoire à nous raconter sur des femmes bantoues et pygmées. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup Nathalie. Comme je le disais, il faut vraiment penser à des initiatives qui, comme je peux le dire, contribue à ces dialogues communautaires, à ces vivre ensemble dans la partie Béni à l'est de la RDC, par exemple. On a eu à travailler et on continue à travailler depuis plusieurs années. Je peux donner l'exemple d'un conflit qui a opposé de femmes pygmées et des femmes bantoues. Souvenez-vous, les pygmées, leur milieu naturel, c'était la forêt d'à côté, parce que la forêt a été envahie par de groupes armés et cette population devrait sortir et venir cohabiter. Alors cette cohabitation-là, dans ces coins-là du pays, n'avait pas été facile parce que ces pygmées n'avaient pas de terre, ces pygmées n'avaient pas de marché. Et ça commençait à alimenter des conflits entre les femmes bantoues et les femmes pygmées. Alors notre association, nous avons, parce que nous travaillons dans la communauté, nous avons mis en place des initiatives que nous appelons de groupes de dialogue, afin qu'ils puissent eux-mêmes identifier le problème qu'il y a dans la communauté et nous venons en appui pour renforcer le capacité pour comment résoudre ces conflits, de petits conflits latents et qui peuvent dégénérer après si ce n'est pas bien traité. Alors, cette activité-là nous a permis de travailler avec ces communautés-là du côté bantou, mais aussi du côté des pygmées, pour réfléchir ensemble, commencer à identifier le nœud du problème, reconnaître le problème. Après, ensemble avec eux, réfléchir sur qu'est-ce qui peut être des activités qui peuvent les réunir. Et c'est là qu'on est venu à travailler sur un projet d'un marché communautaire. Ces genres d'activités, nous les appelons des projets intégrateurs de paix. Ça permet à réunir ces deux communautés sur, pour l'exemple de tout à l'heure, ils travaillent ensemble dans ces marchés et les comités même de gestion du marché est composé de ces deux communautés-là. Et ça permet à ce que ça soit un petit espace, mais qui est bien géré, qui est partagé et qui a facilité la cohabitation entre ces deux populations.
Une très belle histoire. Merci beaucoup, Sandrine Lusamba. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG congolaise Sophé Paddy. On va à présent se rendre en Guinée pour écouter une syndicaliste qui est d'ailleurs la directrice générale adjointe du tourisme et de l'hôtellerie. C'est Asmaouba Doucouré.
Bonsoir, chers fidèles auditeurs de la radio VOA. Pour répondre à cette question, comment prévenir les tensions et violences à caractère ethnique? Je vais parler de la Guinée. La diversité ethnique en Guinée est une richesse, mais parfois elle crée des tensions, surtout en période électorale. Pour éviter les conflits, il est important de promouvoir l'éducation à la tolérance dès l'école. Encourager les mariages et collaborations entre ethnies pour renforcer l'unité. Sensibiliser à travers les médias, les leaders religieux et communautaires pour lutter contre les discours de haine. Renforcer l'égalité des chances pour que chaque citoyen ait l'accès aux mêmes opportunités sans discrimination ethnique. Instaurer dialogue et médiation, des rencontres entre leaders communautaires pour résoudre les malentendus. Organiser une journée de l'unité nationale, faire un événement pour célébrer la diversité guinéenne. Créer des projets communs pour encourager le travail ensemble. Impliquer les femmes. Les femmes jouent un rôle clé dans la paix en sensibilisant dans les familles et les communautés.
Et voilà, c'était un énoncé de plusieurs solutions de la part de Asmaouba Doucouré, qui est à Conakry, donc en Guinée. Sandrine Lusamba, vous avez parlé tout à l'heure de cet exemple, hein, justement, de femmes donc d'ethnie différentes que vous êtes arrivée finalement à rendre solidaires. Est-ce que ce genre d'exemple vraiment peut se répercuter sur d'autres communautés, par exemple, qui verraient effectivement cette bonne entente et qui voudrait justement un petit peu calquer ce modèle? Ou autrement dit, est-ce que vous tentez de vraiment de reproduire ce genre de schéma le plus possible au niveau local?
Effectivement, c'est un modèle pour nous qui marche très bien parce que ça inclut la communauté elle-même à réfléchir sur leurs propres problèmes, mais aussi à réfléchir sur ce qui peut être de solution. Cet exemple était à Béni. Il y a aussi d'autres exemples du côté de l'Ituri où on a carrément travaillé sur des champs communautaires, des champs qui ont réuni des différentes tribus qui ne s'attendaient pas. Et nous, en les réunissant autour de ces champs, nous avons facilité cette cohabitation-là et nous avons saisi de ces opportunités pour les sensibiliser autour de la paix, pour les engager à être des ambassadeurs et des médiatrices. Des femmes communautaires avaient été formées pour faire la médiation entre leurs communautés. C'est vraiment important et ces exemples, ils sont vraiment nombreux et ça peut être dupliqué ou carrément calqué dans d'autres communautés.
Alors, on va se rendre au Togo pour écouter une réflexion d'un auditeur de VOA Afrique. C'est Sena Dwadi Kwadjo.
C'est aux chefs ethniques de prendre cet respect, de protéger leurs ressortissants par la voie de la paix, qui est de sensibiliser son peuple, de demander à son peuple, ses jeunes, d'inviter de commettre des violences à caractère ethnique.
Alors voilà, il parle, hein, Sandrine Lusamba, finalement des chefs religieux, des chefs communautaires. On sait qu'en Afrique, dans de nombreuses régions, hein, surtout en province, donc on a encore, hein, ce genre de chefs de communautés, de villages, etc., qui ont de fortes influences. Donc est-ce que vous travaillez justement directement avec ces personnalités locales et dans tous les cas, comment les engager finalement dans ce type d'initiative?
Oui, effectivement, Nathalie, je suis d'accord avec la personne qui a parlé. C'est important d'impliquer les chefs communautaires et nous travaillons avec eux. Nous avons compris que ce sont des leaders dans leur communauté qui sont suivis et qui sont respectés. Et si des solutions autour de la paix, autour de la cohabitation pacifique passent par eux, eux-mêmes commencent par comprendre qu'ils ne doivent pas attiser des conflits ou ne doivent pas créer des tensions entre eux. Et ça fait qu'ils portent les messages et ils les répercutent au niveau de leur communauté. Nous avons travaillé longuement avec de chefs traditionnels, bien sûr, du côté de l'Est, pour que déjà, eux, dans leur position, qu'elles puissent reconnaître d'abord la place de la femme dans leur chefferie et ensemble qu'ils puissent tous travailler sur la question de la paix. Et ce sont des exemples qui marchent bien parce que, comme vous le savez, la RDC, on est passé par plusieurs conflits. Et dans tous ces conflits, je parle du conflit du Kasaï, par exemple. C'était des conflits qui ont commencé par des problèmes avec des chefs coutumiers. Si seulement à cette époque-là, ils avaient été impliqués, ils avaient compris le rôle qu'ils devaient jouer de promotion de la paix et non de passer par la violence, ça ne pouvait pas dégénérer jusque là où ces conflits est arrivé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc c'est une catégorie de personnes vraiment à impliquer et engager, à les demander de s'engager aussi eux-mêmes pour la promotion de la paix.
Mmh. Alors, on se rend à présent au Gabon pour écouter la journaliste et enseignante en philosophie, Raissa Sylvana Oyaseko.
Pour parvenir à prévenir ces tensions, nous devons commencer par l'éducation et la sensibilisation dès le plus jeune âge. Il est essentiel de promouvoir des programmes éducatifs qui valorisent la diversité culturelle et ethnique comme une richesse et non comme une source de division. Les médias, les écoles, les leaders communautaires ont un rôle clé à jouer pour diffuser des messages d'unité et de tolérance. En outre, il faut renforcer des institutions qui garantissent l'équité et la justice pour tous. Nous devons plaider pour des politiques inclusives qui assurent une répartition équitable des ressources et des opportunités. Le Gabon compte une quarantaine d'ethnies et cette diversité est une source lorsqu'elle est bien gérée. Cependant, il arrive que des rivalités et des préjugés ethniques ressurgissent, notamment dans le cadre politique ou économique. Par exemple, lors des élections, certains discours peuvent instrumentaliser l'appartenance ethnique pour diviser. Nous avons un rôle à jouer pour apaiser ces tensions et rappeler que notre destin commun en tant que Gabonais dépasse nos différences.
C'était notre consoeur journaliste au Gabon, à Libreville, Raissa Sylvana Oyaseko. Sandrine Loussamba, on a parlé tout à l'heure des chefferies, hein, des chefs coutumiers. Est-ce que il est possible aussi, ou en tout cas, est-ce que cela arrive de plus en plus finalement d'avoir justement des chefs de village qui seraient des femmes, ou en tout cas, est-ce que vous encouragez ce type de choix, ou est-ce que c'est encore assez difficile, est-ce que ça reste très patriarcale?
Dans la majorité des communautés, cela reste très patriarcal. Mais à un moment, on a travaillé sur un projet qu'on a appelé Wamamatu Djenge, Femmes construisons. Et ce projet nous a permis d'identifier le rôle de femmes jadis dans les communautés. Et on a compris que dans les temps anciens, les femmes travaillaient en collaboration avec des kings, avec des rois. Elles pouvaient être conseillères de roi, elles pouvaient jouer un autre rôle pour appuyer la chefferie. Et de plus en plus, le temps passé, il y avait ces rôles-là qui étaient mis de côté et les femmes ne se retrouvaient pas vraiment dans la majorité des chefferies. Et c'est à travers ce projet-là, nous nous sommes mis à sensibiliser et on a eu quand même des exemples vers le sud Kivu où cette chefferie-là avait accepté de remettre parce qu'ils nous ont raconté les histoires que comment est-ce que les femmes travaillaient dans les temps avec le roi. Alors, il s'est fait qu'à travers ces sensibilisations, ces chefferies ou ces chefs traditionnels comprennent peu à peu. Il y a d'autres qui reviennent à leur structure d'avant. Il y a d'autres qui acceptent de continuer à collaborer avec les femmes. Mais je sais aussi que dans peu des tribus, je sais qu'il y a des femmes chefs coutumiers vers le Kassa, il y a des femmes chefs coutumiers vers le Nord Kivu, mais comparé en nombre, c'est encore une apanage des hommes.
Merci beaucoup, Sandrine Lusamba, pour ce rappel à l'histoire, finalement. Et la question qu'on pourrait se poser ici, c'est finalement pourquoi cela a plus ou moins disparu et pourquoi on est arrivé finalement à des systèmes un système très patriarcal. On reste au Gabon pour écouter Stéphanie Padenou. Elle est en fait, non, elle est gabonaise, mais elle vit au Canada actuellement. On l'écoute.
Nous ne choisissons pas nos parents, autant que nous ne choisissons pas notre nationalité d'origine et encore moins notre ethnie. Et d'autre part, rappelons ce passage fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies qui dit en son article 1er, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Fin de citation. Partant de là, et au regard de l'histoire tragique de plusieurs peuples africains qui ont vécu des massacres interethniques jusque dans un passé très récent, on devrait tous être très vigilants. Et donc, sensibiliser aux risques des dérives, de divisions et des conséquences tragiques possibles d'une telle attitude, il est primordial que les populations restent en tout temps et en toutes circonstances alertes, unies et soudées.
C'était donc Stéphanie Padenou, gabonaise vivant au Canada. Sandrine Lusamba, à l'heure actuelle, dans l'Est de la RDC, nous savons qu'il y a de nombreux combats, n'est-ce pas? Et que cela dépasse énormément de populations. Et bon, vous avez cité tout à l'heure le fait, justement, que ces combats, notamment, avaient sorti plus ou moins les pygmées de la forêt. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est par centaines de milliers de personnes qui sont déplacées ici et là. Est-ce que cela ne risque pas d'exacerber justement ces conflits intercommunautaires? Et dans tous les cas, est-ce que vous savez si des initiatives sont prises justement pour éviter cela?
La situation de la RDC, en tout cas, ça dépasse l'entendement, parce que ça fait 30 ans, nous autres, vraiment, on était en train de naître pendant qu'on a trouvé ces conflits, et on a besoin que cette question ou ces conflits s'arrêtent. Ces conflits ou d'autres conflits communautaires ont eu à causer beaucoup de violations graves de droits humains. Et la RDC a opté pour la justice transitionnelle. Cette justice qui est vraiment l'ensemble des mesures pour vraiment faire face à des violations graves de droits humains ou à des crimes commis pendant les conflits armés. Alors, il faudra maintenant que cette justice transitionnelle puisse bien fonctionner pour que même les situations qui sont en train de se dérouler aujourd'hui puissent passer par ces processus de justice transitionnelle afin d'établir la vérité sur les faits, parce qu'on doit savoir qui a causé quoi exactement, enfin de faire aussi ce que nous faire vraiment de la justice, passer par de poursuites judiciaires afin de sanctionner sévèrement de personnes qui sont à la base de cette situation, et maintenant penser à faire la réparation, parce qu'il faut reconnaître ce qui est en train de se passer. Il y a des images des enfants qui sont en train de pleurer près des cadavres de leur mère. Il y a des images de femmes aujourd'hui qui sont détruites. Il y a des images de familles, des tissus familiales qui sont détruites. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des réparations sérieuses, des réparations individuelles, mais aussi collectives. Aujourd'hui, dans une réunion, on a parlé de près de 80 écoles détruites. Il faut que cette justice transitionnelle fonctionne d'une meilleure façon possible pour maintenant arriver à ce que, à l'autre pilier de cette justice transitionnelle qui est la garantie des non-répétitions. Faire les vraies réformes de l'armée, de la police, pour que tout ce qu'on est en train de vivre maintenant ne puisse plus c'est répété. Il faut vraiment que cette justice-là, c'est un mécanisme très, très bien réfléchi, que si c'est mis en application, ça permettra que nous ne puissions plus retomber sur les mêmes problèmes, que nous ne puissions pas avoir dans les futurs d'autres problèmes autour de conflits communautaires.
Alors, on peut rappeler au passage, Sandrine Lusamba, que vous êtes coordonnatrice de l'ONG congolaise Sofepadi et que vous organisez, justement, vous avez organisé au niveau local des audiences foraines. Donc, vous parlez de justice transitionnelle, finalement, vous parlez de tout le travail et que vous-même vous faites ce travail de fourmi qui est absolument remarquable, un travail qu'on ne peut pas finalement estimer parce que c'est, il est très rare que finalement que les autorités vous suivent ou en tout cas vous donnent un coup de main. Donc chapeau pour tout ce travail que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée de À votre avis aujourd'hui, Sandrine Loussamba. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG congolaise Sauf et Paddy. Vous étiez donc à Kampala. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, Michel Joseph. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.